Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent.
Non, je l'ai pas fait. T'as terminé là-bas.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Une végétation luxuriante et abondante, un climat tropical, les eaux cristallines de la mer des Caraïbes à l'ouest et la barrière de corail de l'océan Atlantique à l'est, nous sommes en Martinique, la petite île du poète Aimé Césaire, un paradis miniature proche de l'Amérique du Sud. Bananes, cacao, café, canne à sucre, ici tout pousse, vous disent les habitants, même les mauvaises herbes. Alors pour tenter de dompter cette biodiversité exceptionnelle, l'usage des pesticides est devenu la norme et atteint son paroxysme. Avec le scandale du chlordécone, un insecticide toxique et persistant, utilisé massivement dans les bananeraies pendant plus de 20 ans, jusqu'à son interdiction en 1990. Mais de nombreux sols restent pollués de nos jours, alors pour inverser la tendance, quelques producteurs ont choisi de se lancer dans l'agriculture biologique. Et ça marche. Banane bio, cacao bio et même rhum bio. Martinique, le bio sous les tropiques, c'est notre reportage du jour. Bonjour et bienvenue. On commence notre périple dans la commune du Lorrain, au nord-est de l'île, côté océan Atlantique, dans la seule et unique bananeraie bio de Martinique. En voilà.
Michel Blondel-Larouger, agriculteur. Nous avons commencé à faire nos recherches depuis 2004 et nous avons passé en bio en 2014.
Et donc vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici en Martinique ?
Ah ben, je suis né en Martinique.
Ah, vous êtes né là ?
Je suis né en Martinique, oui.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à passer au bio en 2014 alors ?
Eh ben, un ami qui m'a dit, mais Michel, écoute, le glyphosate c'est une saloperie, essaye d'arrêter ça. Et comme j'avais envie de diminuer mes intrants, je me suis dit, bon, je vais faire un essai. Mais ce n'était pas du tout pour faire du bio. Hein. C'était simplement pour diminuer un intrant, supprimer un intrant. Hein, en conventionnel, sans intrants, vous ne faites pas de tonnage. Donc il fallait supprimer petit à petit des intrants. Même si on devait la remplacer par la main d'œuvre, ce n'est pas grave. Nous, quand on a arrêté le glyphosate, on a passé à la coupe de l'herbe et ça m'a coûté le même prix que le coût du glyphosate. Le même prix. Donc je me suis dit, ben, on y va. Et puis voilà, petit à petit, les choses ont commencé à se mettre en place. La nature a commencé à travailler pour moi. Quoi. Et donc on a supprimé les insecticides. Aujourd'hui, tout ça se tue entre eux. Hein. La nature se règle.
Est-ce que le scandale du chlordécone des années 90, donc ce polluant extrêmement toxique, est-ce que tout ça, ça a joué ou pas du tout ?
Oui, ça a joué, puisque on utilisait énormément de produits. Et moi, quand j'ai fait ce pas, et bien, j'ai vu que c'était possible. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait des choses qu'on ne connaissait pas, et que même en France, on ne connaît pas. Puisque quand je suis venu à Cuba, et que j'ai demandé à mon ami cubain de me donner un coup de main sur l'agriculture biologique, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, mais Michel, vous êtes français, c'est vous les Français qui êtes les pionniers. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me racontes là ? Il me dit, mais oui, nous sommes venus en 1940 aller voir un agriculteur en France, qui était M. André Voisin, qui lui avait découvert que sans micro-organismes, on ne pouvait pas travailler les sols. Et petit à petit, il a commencé à travailler avec les micro-organismes et tout a changé. Et c'est ce monsieur que Fidel Castro a été chercher. Il a fait venir à Cuba et ça a été la bible de l'agriculture biologique à Cuba. Hein. C'est fou. Hein.
Oui, c'est qu'il y avait un savoir-faire qui était déjà là, mais que finalement on n'utilise pas.
Les Français n'en voulaient pas.
Mais pourquoi ils n'en voulaient pas ?
Ils n'en voulaient pas parce que c'est de la folie. C'était penser que la nature peut soigner quelque chose. Mais attends, à l'époque, ça, c'était fou, quoi. Hein.
Ben, c'était fou à l'époque, mais c'était encore fou aujourd'hui parce que vous êtes le seul à faire de la banane bio. Pourquoi est-ce que les autres planteurs de bananes rechignent à faire du bio selon vous ?
C'est pas qu'ils rechignent, c'est qu'il n'y a aucune donnée scientifique. Il n'y a rien. Et comme la banane aux Antilles représente énormément au niveau social et économique, ils ne peuvent pas du jour au lendemain se dire mais on va faire du bio.
Là, on est en haut d'une colline.
Oui.
Au milieu des bananes, c'est un paysage absolument somptueux. Ouais. Et là, vous nous emmenez où, donc ?
Ah ben, on va aller en bordure de la forêt, hein, où je vais vous montrer comment récupérer les micro-organismes que nous multiplions et que nous remettons dans nos sols pour les réensemencer. Voilà.
Et je vois toutes les bananes, là, elles sont entourées de sacs plastiques. Pourquoi ?
Le sac plastique était pour éviter qu'on ait des insectes. Ce sont des thrips qui sortent du sol, qui vivent dans les herbes, qui remontent le tronc du pied de banane et passent sur la rampe de la banane pour aller piquer la banane. Et quand elle est piquée, ça vous fait, quand elle est mûre, plein de petits points noirs. Et ça, ce n'est pas, c'est pas commercial. Moi, comme le thrips, je ne l'ai plus. C'est-à-dire, il est là, mais l'auxiliaire du thrips l'empêche de nuire. On a voulu essayer de supprimer le poulie. Le souci, c'est que ce sont des colibris.
Donc, ces petits oiseaux, magnifiques, aux Antilles.
Exactement. Qui vont piquer le bout de la banane quand elle est jeune, pour prendre un petit peu le sucre au bout de la fleur. Et avec les pattes, comme les pattes bougent tout le temps, les pattes abîment la peau de la banane, mais très finement. Donc ça ne fait rien du tout à la banane à l'intérieur. Mais commercialement, pareil, le client n'a pas l'habitude d'avoir une banane qui est un peu abîmée. Donc,
avec des traces de pattes de colibri, voilà. Pourtant c'est plutôt sympathique.
C'est magnifique, c'est magnifique. Donc on aurait pu supprimer ce poli bleu. Hein, mais là, on est obligé quand même de le mettre pour vendre cette banane.
Alors là, on rentre dans la forêt. C'est magnifique, hein. C'est la forêt tropicale, c'est absolument sublime.
Ça n'a rien à voir avec la banane, mais là, tu vois les éruptions de la montagne pelée.
Voilà, voilà, ça, c'est la montagne pelée, là, ouais.
La montagne pelée qui a...
Ça, c'est les cendres du volcan, ça.
Les cendres du volcan.
Alors donc, juste pour faire un petit peu d'histoire, la montagne pelée, ce volcan au nord de l'île, il y a une éruption, donc il y a une centaine d'années, en 1902, et ça a rasé cette magnifique ville Saint-Pierre qu'on appelait le Petit Paris.
Exactement, exactement. Ça a été terrible, hein, la Martinique.
Je crois qu'il y a plus de 30 000 morts, hein, c'est ça.
Ah oui, et puis c'est pas ça, c'est que c'était la capitale.
Et nous, on est de l'autre côté de Saint-Pierre, là, mais toujours près de la montagne Pelée.
Exact. Nous sommes sur la côte atlantique. Je vais te montrer pourquoi j'ai fait ce chemin. C'est là que nous allons récupérer de l'eau, justement, pour mettre nos micro-organismes. Alors, aujourd'hui, tout ce que je peux faire, c'est avec un tracteur pour semer mes micro-organismes dans les sols, c'est mettre un système de fierté irrigation. C'est-à-dire mettre un système d'arroseur sous la banane qui pourra semer plus facilement tous les micro-organismes et tous nos engrais liquides que nous faisons, toutes nos bactéries et nos champignons. Mais pour ça, on est obligé d'avoir de l'eau propre. Donc là, on va aller pour vous montrer où on va récupérer cette eau, qui est une eau magnifique. Elle est naturellement dynamisée.
C'est-à-dire ?
Comment vous dire ? Allez, je vais vous dire quelque chose qui va faire peur à tout le monde, mais il faut qu'elle soit chargée par le cosmos. C'est pas des blagues, vous rigolez, mais c'est pas des blagues. Tout est dans l'air. Tout est dans l'air. Si vous regardez l'agriculture biodynamique, c'est ça. Elle n'a pas que de l'oxygène. Elle a tout ce qui vient du cosmos qui est là, qui est autour de nous et qui fait qu'on peut être bien ou être mal ou être être bien dans la peau, bien dans sa tête.
Là où qu'à monter, il faut qu'on prenne précaution.
Mille à manquer, tu es mille.
M'en vais jamais, dis-moi, liché mon nom.
Mille, dis-moi, pas attention, mon nom.
La jalousie qui fait mon divague.
Mille à manquer, tu es mille.
Où dans le pays, tout bagaille, c'est magie.
Mille, dis-moi, pas attention, mon nom.
M'en vais jamais, dis-moi, liché mon nom.
Mille à manquer, tu es mille.
Ah, c'est l'eau qu'on entend là.
Il y a une cascade et puis
on aurait
le bassin qui est en dessous.
Voilà comment c'est magnifique.
Voilà. Donc c'est là que nous allons récupérer l'eau. Mais l'avantage c'est que c'est une eau qui est vraiment magnifique. Mes enfants, tout le monde la boit. Aujourd'hui, l'agriculture bio, et surtout le Martiniquais, est un peu, comment vous dire, sur le bord du chemin. Il y a des aides pour le bio, mais ils ne peuvent pas les avoir. Par manque de moyens uniquement, c'est pas à faute de l'État. Il y a des aides qui sont mises en place. Mais pour ça, il faut se structurer.
Prenons le cas de la politique agricole commune, justement.
Oui.
Ça, vous bénéficiez de ces aides ou pas ici pour l'agriculture bio ?
Moi, la banane, non, pour l'instant. Pour l'instant, mais on est en train de travailler dessus. Mais pour le reste de l'agriculture bio, oui. Maintenant, il faut fédérer, il faut créer des associations ensemble, hein, pour qu'on puisse avoir la possibilité de bénéficier de ces aides. Alors à mon avis, c'est pas l'agriculteur qui doit bouger son cul pour aller le faire, c'est surtout l'administration qui peut dire, messieurs, nous avons des aides, rassemblez-vous, il faut faire une OP, voilà, on va vous aider, on fait une OP, etc. Et puis à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir ces aides.
Une OP, c'est quoi? C'est
une OP, une organisation de producteurs.
Donc, alors vous, dans la banane, pourquoi est-ce que vous n'avez pas l'aide de la PAC, la politique agricole commune?
Eh bien, écoutez, le souci qu'on a, c'est qu'on ne pensait pas qu'on aurait pu faire de la banane export, hein, un produit bio. C'est pour ça, c'est uniquement pour ça. Personne n'y croyait, puisque c'était quasiment impossible. Nous sommes dans un pays, on a 3 mètres 50 d'eau par an, hein, donc tout pousse. Les insectes, les champignons, la production, tout pousse. Donc si on n'a pas des produits pour tuer ces insectes ou ces champignons, on ne fait pas de tonnage. Donc c'est pour ça que tout le monde disait, c'est impossible de faire de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, avec le système que nous avons mis en place, eh bien, on utilise cette humidité. Puisqu'on utilise les champignons et on utilise les bactéries. Et à ce moment-là, on peut arriver à faire de l'agriculture biologique dans cette humidité. Demain matin, il y aura sûrement des produits que j'utilise qui seront utilisés par d'autres. Et comme ça, petit à petit, on pourra diminuer et finir avec les produits phytosanitaires, chimiques.
Même si de l'eau a coulé, même si la ligne glissée des piles nous joignent, nous pâtissons boussole, nous vivons quand même. Pas tes si posées, chimères, tes crayons, pas tes mêmes songes, et je dis nous tes crayons.
Donc où est-ce qu'on va maintenant, Michel?
Eh bien, je vais vous montrer comment je fais mes compositions. Les micro-organismes, mes bactéries, etc. Okay.
Allez, on remonte dans le 4-4.
Qu'à continuer danser, nous là qu'à rêver, qui s'appliquer.
Et quels sont vos rapports avec les producteurs conventionnels de bananes? J'ai vu qu'au salon de l'agriculture, cette année à Paris, il y avait eu quelques petits soucis entre les producteurs de bio et les producteurs conventionnels.
Oui, alors le contact que j'ai avec les agriculteurs conventionnels, elles sont très bonnes. Bon, on m'appelle le fou, bien sûr, puisque qui aurait pu penser qu'on aurait pu faire ce genre d'agriculture biologique, voilà. Et au salon de l'agriculture,
En fait, il y a eu un slogan,
oui,
qui disait, bah, rappelez-nous le slogan.
Mieux que bio, c'est possible.
Voilà.
C'était le conventionnel.
Qui laissait entendre que le conventionnel pouvait être mieux que bio.
Voilà.
Et on se demande ce que c'est que le mieux que bio.
Voilà. Eh bien, écoutez, bon, c'est un peu de la faute du conventionnel qui aurait pu faire passer le message mieux au niveau de l'agriculture biologique. S'ils avaient fait ça, on n'aurait pas eu ce souci. Le problème, c'est qu'on a des bananes qui sortent de pays tiers, comme l'Équateur, qui vend des bananes bio beaucoup moins chères que le conventionnel.
Mais est-ce que ce sont de vraies bananes bio ou est-ce qu'il y a une fausse appellation?
Pour eux, peut-être que c'est une bonne banane bio. Pour nous, en Europe, hein, ce n'est pas. Parce que nous, on est conforme à un règlement. Et les pays tiers, eux, ne sont pas conformes. Ils sont en équivalence.
C'est l'équivalent bio, mais ce n'est pas vraiment du bio.
Et ce n'est pas du bio. Et ils utilisent les mêmes logos que nous. C'est pas normal. Ils utilisent des produits que même le conventionnel n'a pas le droit d'utiliser. C'est fou. Et donc le conventionnel a voulu choquer en disant mieux que bio, c'est possible. C'est pas mieux que bio fait en Europe, c'est mieux que bio dans les pays tiers. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Mais s'il avait dit, ça aurait pas fait un scandale. Moi-même en premier, j'étais pas content. J'étais pas content parce que ça m'a fait du mal. Mais quand j'ai compris pourquoi il avait fait, là j'ai compris que c'était normal. Et puis aujourd'hui on essaye de faire que l'Europe puisse changer cette règle et que tous ces gens qui veulent vendre du bio en Europe, hein, soient conformes.
Alors ici une petite baraque en béton avec à l'intérieur des énormes cuves noires.
Voilà. Alors ici. Ici.
Oh, il y a une odeur assez forte. Hein.
Ouais. Bon, une bonne odeur.
Ouais, ça dépend des goûts.
C'est une odeur de mélasse. Alors, ouais, on vient de recevoir du pur N-pon qu'on va dépolluer et avec des micro-organismes pour que les micro-organismes puissent se multiplier et détruire tout ce qui est mauvais, tous les nitrates et consorts du purin. J'ai deux enfants, deux filles qui travaillent avec moi. Mais heureusement qu'elles sont là, parce que je me souhaitais retrouver bien seul.
C'est la jeune génération qui croit fermement au bio?
Oui, ils croient en leur père, comme toutes les filles. Ils ont compris que l'agriculture biologique était peut-être l'avenir pour nous, pour la Martinique aussi. Et donc elles y croient énormément. Et ce sont vraiment des défenseurs du bio aujourd'hui.
Les bananes, moi, vraiment, on les voit, mais à flanc de montagne avec la forêt juste au-dessus. Ouais. C'est vrai que c'est magnifique. Hein.
Ouais, plus on est collé à la forêt, plus les bananes sont belles. Plus on est en plaine, plus il y a des difficultés. Pourquoi? Parce que normalement, c'est l'humidité qui fait qu'on a beaucoup d'insectes et beaucoup de saloperies dans nos cultures.
Et là, c'est l'inverse, la forêt retient l'humidité.
Exactement. Et quand je sème mes micro-organismes, elles ne crèvent pas, elles ne meurent pas.
Je vais vous montrer quelque chose.
Alors,
c'est le centre du régime de bananes. Au départ, c'est une fleur, après ça fait les bananes. Et après, le tronc, le pied de banane, prend tout dans le sol pour alimenter le régime. Et pour alimenter les bananes, pour les faire grossir, pour qu'elles soient sucrées, etc., etc., etc. Donc, dans cette ampe, nous avons tout. Nous avons de la potasse, nous avons des nutriments, nous avons du calcium, nous avons du fer, nous avons tout. Tout ce que la banane avait besoin a passé par là. Et donc, nous, en la récupérant, nous avons mis des micro-organismes dessus. Et les micro-organismes sont en train de bouffer toutes les cellules. Et quand elles les bouffent, la cellule éclate. Il y a un liquide qui sort. Et après, on les réensemence dans le sol. Et là, ça, c'est notre apport de potasse, surtout de potasse, puisque ici, comme on fait tous nos engrais nous-mêmes, on doit apporter de l'azote, de la potasse, du phosphore, et la potasse, on n'en a pas, à part dans les rampes.
Et ça marche bien?
Waouh, ouais, très bien, très bien, très bien.
Et alors là, on voit des... C'est quoi? C'est des aigrettes garzettes, les oiseaux blancs, là?
Ouais, ils viennent parce que, comme on coupe l'herbe, ils viennent pour bouffer les insectes.
Mais le fait aussi de... Des oiseaux, des aigrettes garzettes, de la vie tout simplement, c'est un signe que la nature va bien ici, c'est
ça, non ? Ah oui. On a des iguanes, on a des oiseaux, on a toutes sortes de choses. On a un oiseau qui s'appelle le merle. Le merle, c'est une catastrophe. Quand vous avez des merles, vous n'avez aucun autre oiseau autour, parce qu'il prend la place de tout le monde. Il fait un paquet de petits, ça se multiplie, ça gueule pendant toute la journée. Eh bien, vous avez des merles de Sainte-Lucie, de l'île d'à côté.
Donc une petite île à côté, voilà.
Une île à côté. Ce sont des merles qui sont beaucoup plus petits et qui vivent en bonne. Et eux, ce sont des fainéants. Ils ne font pas de nid et ils s'occupent pas de leurs œufs. Eh bien, ils vont dans les nids des merles de Martinique, ils jettent les œufs du merle et ils pondent, ils foutent le camp. Donc au bout d'un moment, le merle de Martinique commence à disparaître, il n'y en a plus. Et eux, comme ils ne peuvent plus se multiplier, parce qu'ils ne couvrent pas les œufs, eh bien, ils meurent aussi. Et donc, ça vous fait un vide sanitaire. Oui, naturellement, ça se fait. Et ça, c'est encore la vie, hein, ça. Hein.
Comment... Faut laisser faire la nature, quoi. C'est la morale de l'histoire.
Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une philosophie, c'est une façon de penser. J'aime bien cette façon de voir la nature, cette façon de voir aujourd'hui mes amis, cette façon de voir, voir mes employés, voir la population en Martinique, discuter. Ouais, c'est une façon de vivre qui est complètement différente.
C'est le bagage qui a fait moins plaisir, c'est le moins en bon petit chéri. C'est au sel qui tout
Si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de C'est pas du vent, aujourd'hui nous sommes en Martinique, une petite île paradisiaque des Caraïbes. Après avoir visité la seule bananeraie biologique dans la première partie de l'émission, nous continuons notre périple avec Tonton Léon, le pionnier du maraîchage biologique de Martinique, le premier homme bio AOC et la relance de la culture du cacao. Seulement 27 ans, Cora Bernabé a déjà eu plusieurs vies. Ingénieure agronome, ancienne enseignante, elle est aujourd'hui productrice de cacao et d'arbres fruitiers, présidente de l'Association des producteurs de cacao, créée en 2015 et élue à la collectivité de Martinique. Après avoir emprunté une piste construite par son grand-père dans les années 80, on la retrouve sur le domaine familial près du Carbet, une commune du nord-ouest de la Martinique. C'est là, dans un cadre époustouflant au milieu de la jungle, qu'elle a relancé la production de cacao dans l'île.
Donc là, comme je vous disais, c'est une parcelle d'un hectare à peu près, qui est en partie en prairie et en partie en sous-bois. Et on plante sur la prairie du cacao avec des bananiers, enfin d'autres arbres fruitiers. Beaucoup des arbres fruitiers en voie de disparition en Martinique. Il y a l'abricot pays, de la muscade, des agrumes. On va certainement mettre aussi quelques manguiers en association avec le cacaoyer et le bananier qui à la fois apporte des revenus beaucoup plus rapidement que les arbres fruitiers, mais aussi fait de l'ombrage au cacaoyer.
Donc c'est une volonté en fait de mélanger toutes ces espèces pour protéger le cacaoyer.
Déjà pour protéger le cacaoyer, mais aussi pour créer une diversité et puis participer aussi à la diversification végétale sur le territoire. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'arbres en voie de disparition. Le cacaoyer n'existait quasiment plus en Martinique. Aujourd'hui, on est sur une relance de filières, mais on souhaite le faire dans une logique de développement durable et de viabilité aussi. C'est la raison pour laquelle on diversifie. En diversifiant, on va créer des barrières naturelles contre les maladies, donc pas de nécessité d'apport de produits phytosanitaires. Et c'est ce vers quoi on sourit en tout cas.
Et comment vous expliquez que le cacaoyer est disparu? Parce que c'était une plante qui était cultivée à l'époque ici en Martinique.
Oui, oui, au XVIIe siècle, Martinique et Guadeloupe étaient les premiers pays producteurs de cacao au monde, avec un chocolat très apprécié de la cour du roi Louis XIV, si je ne me trompe pas. Et puis après, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'apparition des fronts pionniers en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, donc des territoires beaucoup plus grands que ceux de la Martinique et la Guadeloupe, avec un contexte qui est un contexte où on veut produire en quantité, on n'est pas du tout dans un objectif de qualité comme aujourd'hui. Et puis des maladies qui apparaissent sur le cacao en Martinique et le café aussi, hein. Des maladies qu'on ne connaît pas, des plantations décimées par des ouragans, et puis l'apparition aussi de cultures subventionnées comme la banane. Donc du coup, tout a fait qu'on s'est retrouvé avec la disparition de la culture parce que c'était plus rentable de faire du cacao en Martinique.
Et du coup, on est passé de combien de tonnes à combien de tonnes du 17e au 21e siècle?
Du 17e, on produisait des milliers de tonnes, 6000 tonnes par an. Et aujourd'hui, sur nos dernières recherches qui datent de 2014, on était sur du 4 tonnes annuelles. Donc c'est rien. Et là, l'objectif, hein, on a un champ, un boulevard devant nous pour relancer cette production. Après, on n'est pas du tout sur un objectif de quantité, même s'il en faut, mais en tout cas on ne va pas s'aligner sur des gros pays producteurs comme la Côte d'Ivoire. On est vraiment sur un objectif de qualité, donc on a beaucoup travaillé sur les variétés déjà que nous avons sur le territoire. On a fait des recherches pour savoir quelles variétés on avait, d'où elles venaient. On a vu qu'on avait une signature génétique qui est propre au territoire martiniquais avec vraiment différents hybrides. Et aujourd'hui, on a fait fabriquer des chocolats à partir des exploitations. Donc on a travaillé sur des micro-terroirs et on s'est rendu compte que d'une exploitation à une autre, le goût du chocolat changeait complètement avec des notes de fruits rouges, des notes de fruits à coque. Ça, c'est vraiment commun à l'ensemble du bassin caribéen. Des notes de caramel, de banane, etc. Donc c'est très intéressant. Enfin, à partir de ce moment-là où on a vu qu'on avait une diversité génétique, on a vu qu'on arrivait à produire quelque chose de bon, on s'est dit « Ok, on a un potentiel de développement d'un cacao de qualité, enfin d'excellence en Martinique. » Et là, on s'est dit « On peut redéployer avec ce qu'on a sur notre territoire sans avoir la nécessité d'importer. »
Je vous suis ?
On y va. Ça va aller ?
Ah oui, ça va aller. J'essaie de pas glisser, c'est tout.
C'est ça.
Merci. Je vous aide.
En fait, je me suis trompée d'être.
Donc là, on est vraiment dans la prairie, à l'entrée d'une forêt.
C'est ça, tout à fait. On a une partie en prairie, une partie en forêt, et puis il y a ce qui est un peu l'orée du bois. Et on a choisi en fait de mettre des cacaoyers à la fois dans la forêt, à la fois dans la prairie. C'est un peu un test en fait qu'on fait. Et là c'est le tout début de l'expérimentation ici. Il y en a qui ont planté dans le nord Caraïbe des cacaoyers et qui ont une production au bout d'un an et demi. Alors que dans tout ce qu'on lit dans la bibliographie, on voit des premières productions, en tout cas issues de semis, au bout de au minimum 2 ans. Donc là, on a de très bons résultats. Au départ, je ne sais pas si beaucoup de personnes croyaient en la relance du cacao en Martinique, parce que c'est une culture, quand on regarde les cours du marché, on est autour de 3,80 € du kilo. À 3,80 € du kilo, ce n'est clairement pas rentable. Le but, ce n'est pas de créer une culture sous perfusion des subventions, c'est d'arriver à créer une culture qui arrive à vivre d'elle-même. Et du coup, on arrive à... dans un contexte qui est quand même un contexte français, européen, donc avec des normes françaises et européennes, on arrive à avoir déjà une traçabilité des normes sanitaires en termes de qualité, mais aussi qualité gustative, qui sont bien supérieures à ce qu'on retrouve ailleurs et qui nous permettent de justifier des prix beaucoup plus élevés et du coup qui permettent de rendre cette culture-là viable sur le territoire.
Justement, quand on est ici en Martinique, est-ce qu'il est difficile de s'adapter aux normes européennes conçues donc souvent à Bruxelles ?
Oui, bien sûr. Le cacao en sous-bois, les gens n'y croyaient pas du tout. Il y a 4 ans, on nous a dit « Écoutez, ça n'a pas marché au Venezuela, je ne vois pas pourquoi ça marcherait en Martinique. » Et au départ, c'était niette. C'était pas question de planter du cacao en sous-bois. Et depuis janvier, on a cette autorisation-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment une belle avancée.
Autorisation de l'Europe, c'est ça que vous voulez dire ?
Autorisation de l'Europe et de l'État français.
Et la rivière en contrebas. C'est bien d'avoir une rivière
pour l'irrigation?
On a la rivière en contrebas, mais ce qui est encore mieux, c'est qu'en face, on a le canal des esclaves, qui est un canal d'amener d'eau, qui vient d'une rivière à Font-Saint-Denis, donc un peu plus haut, et qui avait été construit par les esclaves au XVIIe siècle, il me semble. Et ce canal existe encore. Et du coup, notre eau, elle vient du canal, donc on a des centaines de mètres de tuyaux qui arrivent du canal, qui viennent sur la propriété. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de pompe, parce qu'on le fait en gravité, hein, pour avoir de l'eau sans avoir la nécessité d'avoir ou de l'essence ou de l'électricité, parce qu'on est coupé du monde ici, donc on a peu d'électricité. On
n'a
pas d'électricité courante, on est complètement au solaire et il faut faire des économies. De toute façon, il faut toujours trouver des moyens de faire des économies d'électricité. Et le fait d'avoir cette eau qui arrive de plus haut, ben, pour nous, c'est tout bénéfice. Quoi.
Vous êtes en production totalement bio, c'est ça?
Oui, enfin, alors du coup, je n'ai pas encore la certification, mais je suis en conversion, donc zéro produit venant de l'extérieur. Et de toute façon, le cacaoyer, ce n'est pas un arbre qui est exigeant en intrants. Et comme on prend des variétés d'ici, il y a très peu de maladies, il n'y a que la pourriture brune des cabosses qui est liée à un champignon, et ça se gère très facilement. Et puis, je pense qu'on peut très bien travailler sans produits chimiques, quoi. On va passer pour un moment.
Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien?
Ça va?
Vous voulez boire un peu d'eau?
Volontiers. Donc c'est vous monsieur qui avez donné l'envie à Cora.
Mais oui.
De se relancer dans le cacao.
Et je pense qu'elle va réussir. Oui.
D'ailleurs quand tu as acheté ici, il y avait, enfin sur la véranda, ouais, il y avait un séchoir pour le cacao. Et d'ailleurs, quand on a fermenté, séché ici, on a eu c'est la première année où on a de bons résultats.
Ouais.
Alors les anciens devaient déjà connaître les meilleurs lieux pour pouvoir fermenter et sécher dans de bonnes conditions.
De bonnes conditions, ah oui.
Ouais.
Et on est dans un petit coin tranquille, on est bien.
Grâce à son abnégation, Cora Bernabé a réussi à faire reconnaître le cacao comme une culture française, ce qui n'était pas le cas avant. Et avec les aides de la PAC, la politique agricole commune qui découle de cette reconnaissance, elle espère planter 10 000 nouveaux cacaoyers en 10 ans.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Un petit bouteille le rhum, ça les olie, ça les transparent. Il bouge pas, mais dans ton col il fait l'effet. Un petit bouteille le rhum, ça les olie, ça les transparent. Donne bouteille, il bouge pas, mais dans ton col il fait l'effet. Moi me dis bois, sinaloqué à vous supporter. Bois, si dans ton col il fait l'effet. Bois, sinaloqué à vous supporter. Bois, si dans ton col il fait l'effet. Un petit bouglève, grand matin, il boit son bouteille. Quand y'arrive dans l'air midi, il goûte son bouteille whisky. Quand y'arrive le soir, il boit son mari brisa. Mais ça que les préfère, c'est son bouteille le rhum. Un petit bouteille le rhum, ça les olie, ça les transparent.
On reste au Carbet, dans la région Nord-Caraïbe. C'est là que le roseau sucré, la canne à sucre, fut implanté en Martinique dès 1640. Grâce à cette canne, l'île est devenue une référence dans la production de rhum connue dans le monde entier. En 2016, la distillerie Naisson, petite entreprise familiale créée en 1932, a produit le premier rhum bio AOC de Martinique, un défi difficile à relever. Julie Moko est agronome chez Naisson.
On se trouve dans un champ de canne à sucre qui est en conversion vers l'agriculture biologique. Donc on l'a planté en septembre 2016. Il sera récolté dans 3 ans en bio. On a complètement modifié nos pratiques agronomiques, donc dans les champs, les travaux à la fois de fertilisation, de gestion des herbes qui sont entre les rangs de canne. Du coup, on remplace en fait des produits de synthèse, que ce soit des engrais ou des produits chimiques comme les herbicides, par des pratiques alternatives. Ça va être à la fois utiliser davantage nos ressources au niveau de la distillerie, comme les déchets organiques, fibreux ou liquides, issus de la transformation en rhum. Et ça va être aussi davantage de travail manuel, donc un travail vraiment de précision au niveau des rangs de canne pour pouvoir se passer de produits chimiques et favoriser aussi la maturation et le lien au terroir.
Et est-ce qu'il y a des variétés de canne qui sont plus propices à devenir bio ou pas ?
Au niveau du bio, on est tenu par le règlement européen d'avoir des variétés différentes puisqu'on a une double activité bio et non bio pour l'instant chez Naisson. Ce qui est compliqué, c'est que les variétés qui sont les plus adaptées donc au niveau du climat et des sols, c'est des sols sur lesquels la variété canne bleue, qui est d'origine barbadienne, qui est assez répandue en Martinique, pousse très bien et a des qualités agronomiques et aussi de transformation qui sont les plus intéressantes. Malheureusement, pour l'instant, en bio, on ne peut pas les utiliser puisqu'on nous oblige à utiliser des variétés différentes. Je rajouterai aussi le fait qu'il y a peu de références sur le sujet, surtout en milieu tropical. Le cahier des charges bio, c'est le cahier des charges européen qu'on applique. Il a été pensé plutôt pour des cultures européennes. Nous, on est un petit peu en marge de tout ça et on a des problématiques très différentes. On est en climat tropical, on va avoir des herbes toute l'année, on n'a pas d'hiver pour nous stopper pendant quelques mois la pousse. Voilà.
Il faudra peut-être que l'Europe revoie sa copie, c'est ça que vous voulez dire ?
Bah oui, je pense que ce serait intéressant qu'on se mette tous ensemble au niveau de la Martinique et puis des DOM-TOM en général pour vraiment défendre un bio qui soit un bio des tropiques.
Est-ce que vous bénéficiez des aides de la PAC, la politique agricole commune ?
Alors, on bénéficie des aides de la PAC de façon générale. Malheureusement, il n'y a aucune aide qui incite à convertir des parcelles en bio et à les maintenir. Il n'y en a pas du tout.
C'est pénalisant, justement, quand on veut se lancer dans le bio ?
Bien sûr, surtout que faire du bio aujourd'hui, ça va dans le sens aussi d'autres plans d'action territoriaux sur la qualité des eaux, sur la qualité de l'air. Donc aller dans le sens de la réduction des herbicides, le bio y participe complètement, c'est sa raison d'être de base. Et pourtant, on ne favorise pas cette pratique. Voilà. Et nous, effectivement, on aurait des moyens un petit peu de compenser au moins la partie conversion, puisqu'il y a 3 ans quand même qui ne comptent pas. On va faire des pratiques bio sans pouvoir valoriser derrière nos produits. Donc, on a pu se permettre de le faire parce qu'on maintient par ailleurs des parcelles en conventionnel. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Et c'est dommage.
Malgré ces difficultés, la distillerie Naisson a prévu de produire le premier rhum élevé sous bois bio l'année prochaine et le premier rhum vieux bio dans 3 ans. Il s'appelle Léon Tisgras, mais tout le monde l'appelle Tonton Léon. C'est une personnalité de la Martinique, le pionnier du maraîchage bio qu'il a débuté en 2002. On le retrouve sur son exploitation dans les collines de Fonds-Saint-Denis, avec une vue époustouflante sur la montagne Pelée. Ou sur l'épaule, il conseille ses associés qui font des semis de salade.
Mais mon vieux, ça fait plaisir de te recevoir quand même chez moi. Après le temps.
Alors, plaisir partagé.
Ici, on est sur une exploitation sportive. Il faut avoir la force et le courage d'y rester et d'y continuer. Mais c'est un challenge. Et ce challenge, je pense qu'il est beau. Parce que personne ne croyait que je pouvais faire quelque chose ici. Même mes parents disaient, bon, ils ont tellement galéré de leur vie. Ils me disaient, bon, va vers la ville, va pas faire autre chose. Parce que c'est difficile. Et ma première question, c'est de poser ma valise là où ils ont posé leur vie. C'est ça qui est beau. Et puis je crois que c'est devenu un jeu. Aujourd'hui, ce jeu-là est devenu non seulement une orientation mondiale, puisque Macron l'a bien dit, hein, on va beaucoup sur la mondialisation et le développement rural, écolo, famille et tout ça. Je crois que c'est l'orientation de la nouvelle donne de la société. Parce qu'on a beaucoup oublié le savoir-faire, je dirais, transfert de savoir-faire de nos aînés. Et quand moi je suis venu ici, là où était la chose primordiale que mes parents manipulaient, parce que c'est quand même là où qu'ils nous ont permis de faire, de nous envoyer à l'école, d'acheter nos vêtements, parce qu'ils avaient que ça comme outil de travail et de maîtrise du sol. Et bien, quand je suis revenu, par respect, par coutume, par nécessité, et pour continuer le travail qu'avaient commencé mes parents, eh bien, j'ai repris là-haut. Et j'ai fait de là-haut aujourd'hui une référence mondiale. Et aujourd'hui, j'en suis quand même très fier, très content, parce que c'est dans la réalité que je trouve les vraies valeurs.
C'est souvent fier. C'est des semis, ça ?
Ouais, des semis. De laitue. Attends, on va essayer comme ça là.
Je vais montrer ça. Normalement ça va. C'est quoi ?
Chêne rouge.
Ah, c'est la variété chêne rouge.
Voilà.
Qu'est-ce que bien sur le robot ?
Ouais, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté, hein. Mais après quand j'arrive, il me fait la gueule.
Alors lui, c'est Adel Guetta, qui fait partie de la structure bio qu'on a montée et qui est spécialiste agriculture bio sur la commune du Gaumont et qui, par collaboration, bien aujourd'hui partager une machine en commun, hein, pour pouvoir faire des semences. Et je crois que c'est ça tout l'intérêt, je dirais, de la fédération des agriculteurs pour qu'ensemble ils puissent avoir en commun du matériel et pouvoir se développer.
Tonton Léon, on est où là ?
Ben ici, on est à Fonds-Saint-Denis, une des communes du Nord, située à 675 mètres d'altitude. Donc c'est une commune où il fait bon vivre, hein, qui est quand même située dans les hauteurs, cloisonnée entre les pitons du Carabin, une chaîne volcanique, et la montagne Pelée. Donc la force de cette commune, c'est d'avoir un taux de quartz important dans le sol, c'est d'être à 6,50 m de sol arable, qui est importante. C'est la seule commune de Martinique qui n'a pas de chlordécone.
Alors vous disiez que c'était une des seules communes à ne pas avoir été polluée par le chlordécone.
Ouais.
Le chlordécone, c'est donc ce pesticide qu'on utilisait dans les années 90, ouais, dans les bananeraies notamment.
Ouais, ouais.
Mais comment vous expliquez que cette zone-là ait été épargnée ?
Elle est épargnée parce que simplement, c'est très montagneux, d'une part. C'est une zone très aride. Donc la culture de bananes n'a pas été vraiment imprégnée dans cette partie de l'île. Mais on reconnaît le désastre que ça a fait le chlordécone. Puis aujourd'hui, si on ne vit pas avec, on essaie de tout faire pour remédier. Mais aujourd'hui, l'agriculture aujourd'hui a une autre approche plus biologique, une approche plus agroécologique, une approche plus permaculture. Donc je crois que cette approche-là fait qu'aujourd'hui, on a une prise de conscience.
Alors vous parliez de prise de conscience, mais tout n'a pas été si simple parce que vous, quand vous avez commencé, vous avez été un des premiers à développer le bio ici en Martinique. Comment c'était perçu et qu'est-ce qui, vous a donné envie de vous lancer dans le bio à une époque où ce n'était pas tellement développé finalement ?
Alors c'est très simple. Hein. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai voulu mettre en avant le jardin créole. C'est tout bête. Le jardin créole qui est quand même endémique à un peuple, endémique à une manière de faire, endémique à un mode de culture parce que c'était authentique. C'était un agencement particulier.
Alors expliquez-nous cet agencement et ce qu'est le jardin créole pour ceux en métropole et en Afrique et dans le reste du monde qui ne connaissent pas le jardin créole.
Le jardin créole, c'est un agencement d'une parcelle où on va emmener plusieurs cultures tout en respectant leur développement, leur association, puisqu'elles vont à la fois avoir deux rôles. Un rôle de productivité, mais un rôle d'association et de maîtrise de l'environnement pour contrôler les bestioles du sol. Donc c'était les plantes entre elles vont s'associer pour qu'ils puissent s'autodéfendre. Et ça permettait de ne pas emmener de produits chimiques. Ça permettait de mettre l'homme en avant, de mettre son énergie, sa vibration. Le jardin créole était un jardin de santé. Dans le jardin créole, on avait toujours tous une plante médicinale qui permettait de prendre soin de la santé de la famille. Donc ça aussi, c'était quelque chose de très fondamental, qui était ancré dans le jardin, parce que le jardin non seulement nourrissait, le jardin guérissait, et le jardin était une approche familiale. Donc c'était tout un art. Et cet art-là, eh bien, il disparaît tout doucement parce que la présence humaine du jardin créole fait qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus s'en prendre à ça. Ils trouvent le jardin créole, je dirais, dans les hypermarchés. Et donc ils ont exploré. Mais nous, aujourd'hui, on maîtrise, on connaît, on en parle encore, on en fait. Et c'est ce qui est beau, hein. c'est un peu ça.
Et c'est important pour vous justement de, peut-être pas de sauvegarder, mais de continuer cette culture créole, cette particularité créole ?
Oui, c'est important pour moi de non seulement de continuer, mais c'est important de pouvoir montrer à mes enfants qu'il y a eu un pan de l'histoire. Et ce pan de l'histoire, je l'ai continué pour qu'ils puissent avoir, je dirais, en mémoire, notre traçabilité patrimoniale, culturelle, traditionnelle, et puis une continuité tout court de passation de pouvoir. Ce travail que j'ai lancé, continué, mais fait encore son chemin. Hein, parce que c'est vrai que c'est un beau travail.
C'est un beau travail, mais est-ce que ça vous permet de vivre correctement? Est-ce que c'est rentable? Et quelles sont les contraintes de l'agriculture biologique ici en Martinique?
Bon, aujourd'hui, ma première question, c'est de vous dire que tout métier nous y sommes maîtres. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez dans le métier? Si vous voulez rouler une Mercedes, et puis pour du travail, ce n'est pas possible. Je fais beaucoup de thématiques autour de mon agriculture, et j'ai emmené ce qu'on appelle la diversification agricole autour de la bio. Après, aujourd'hui, vous êtes avec moi là, vous dormez chez moi, c'est simplement parce que j'ai ajouté une partie hébergement sous l'exploitation. Vous avez quand même mangé avec moi parce qu'on a ajouté une partie culinaire, table d'hôte. Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui permettent d'entrer dans ce cadre diversificatif de développement du métier de l'agriculture biologique. Il ne faut pas rester voir l'agriculture biologique uniquement en plantant quelques carottes, quelques patates et les vendre. Mais c'est surtout comment on peut diversifier, transformer. Donc on a un pôle de transformation avec des chefs qui viennent prendre les produits du jardin, donc une formule du sol à l'assiette, et qui permet de transformer le produit autour d'une table.
Comment vous voyez l'avenir de l'agriculture bio ici? Parce qu'on parle quand même de problèmes de foncier, d'accès à la terre. Il y a quand même l'agriculture conventionnelle qui est encore très ancrée ici. Quelle place pour le bio dans le futur?
Si vous comprenez ce langage que je vais vous dire, répétez-le. La bio, c'est un boulevard devant, un boulevard derrière. C'est-à-dire que quand je rentre sur le boulevard, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Parce qu'on fait simplement que les bosches. Dans les 10 années à venir, il y a une chose sûre qui va marquer le monde, c'est le développement durable. C'est la famille, c'est l'agriculture biologique, c'est l'environnement. Parce que la bio aujourd'hui, c'est une autre manière de penser. C'est même pas aller gagner des millions. Non, mais simplement vivre sainement, naturellement et en harmonie. C'est le seul outil à notre portée pour pouvoir réaliser ce rêve, c'est la bio.
Merci.
Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien. Merci.
Tonton Léon a encore plein de projets en tête. Faire de l'initiation à la terre pour les 6-12 ans, développer ses choix de culture avec des produits plus raffinés, et enfin, son rêve, créer une table de gastronomie rurale.
C'est un très beau terrain tropical. Le soleil brille toute l'année. Alizé, programmé, et toutes les plages garanties cocotées.
Martinique, le bio sous les tropiques, c'était un reportage d'Igor Strauss réalisé par François Porcheron. Bonne journée à tous et à demain. À suivre, une bande-annonce 30 secondes, puis un nouveau journal sur la radio du monde.
Nous passons devant le volcan Pelé. N'ayez pas peur, les éruptions sont contrôlées. Pour la sécurité, les falaises ont toutes été bétonnées. Serpents anesthésiés et cyclones définitivement détournés.